Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors Mélanie, par quoi va-t-on commencer ce lundi?
Eh bien Julia, maintenant que j'ai ôté ce chat de ma gorge, on va s'intéresser à un produit vital, j'exagère à peine, c'est le fromage. Et on va se poser cette question, pourquoi on aime tant le fromage en France? On va donc dédier une bonne partie de l'émission à ce produit adoré des Français, son histoire, sa fabrication. Les fromages n'auront plus aucun secret pour nous et on en percera tous les secrets justement avec Marie-Anne Quentin. Elle est fromager affineur de renom et faut fonder l'association pour le respect des traditions fromagères françaises.
Et puis Mélanie, à 11h35 dans notre dossier santé bien-être du jour, on va s'adresser à tous ceux qui paniquent pour un mal de tête, tous ceux qui courent chez le médecin au moindre bobo, pire encore ceux qui stressent alors qu'ils n'ont rien, persuadés que leur corps leur cache quelque chose. J'ai nommé les plus de 8 millions d'hypochondriaques en France. On va tenter de les rassurer. Et surtout, on va tenter de les aider à se débarrasser de ce trouble. On le fera avec Antoine Spatt, psychologue clinicien formé à l'hypnose ericksonienne.
Et on va bien vous aider vous aussi, Julia. Ensuite, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera portée par Sophie Menu. Elle est consacrée aujourd'hui au gâteau de la Saint-Nicolas. Mmh. Il y aura donc aujourd'hui au menu des friandises pour tout le monde. Ensuite, ce sera au tour de Sophie Braffman, notre spécialiste mode. Elle a décidé ce lundi de nous décrypter les derniers potins de son secteur, notamment en ce qui concerne le scandale autour du film House of Gucci avec Lady Gaga qui vient de sortir. Elle nous a réservé les meilleurs cancans.
Et enfin Mélanie, nous terminerons cette séquence avec les conseils beauté toujours très attendus de Benjamin Lévesque. Il nous propose aujourd'hui un focus sur un ingrédient de plus en plus utilisé en cosmétique, le lin. Cette plante ferait des miracles selon lui pour notre beauté. Il va tout nous expliquer.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici tous les jours on tente d'améliorer notre vie quotidienne, on fait tout notre possible pour que vous soyez bien ou mieux dans vos baskets. Et alors aujourd'hui on a décidé de se poser cette question, pourquoi aime-t-on tant le fromage? C'est une question très importante, n'est-ce pas Julia?
Eh oui Mélanie, surtout quand on est accro aux pâtes molles à croûte fleurie comme moi, ou encore aux pâtes pressées cuites comme vous je crois. Bref, il y en aura pour tous les goûts ce matin, tous les amateurs de fromage, et on va vous donner quelques astuces pour bien respecter l'art de savourer tous ces délices gustatifs. Mais avant cela, on va accueillir avec délices également, comme tous les jours, notre cher Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde.
Vous aimez le fromage?
Oh, j'adore ça, j'adore ça.
C'est quoi votre préféré à vous?
J'en ai tellement. Moi j'aime les pâtes dures un peu, pâtes dures un peu truffées. J'aime changer en fait régulièrement. Et d'ailleurs, pour cette petite enquête de début d'émission, j'ai vraiment bossé. Je vous cache pas que parfois il y a des sujets, je les fais plus rapidement. Là, j'ai organisé deux raclettes chez moi ce week-end pour pouvoir...
Enquête de fond.
Ah ben c'est une enquête de fond, c'est pas du tout un plaisir personnel.
Vous n'aviez pas commencé un régime, vous aviez dit ça vendredi.
Voilà, c'est déjà une première info, le fromage a un impact sur la mémoire apparemment, déjà. Alors j'ai commencé avec une question, quel est votre fromage préféré? Je l'ai posé aux enfants cette question, ça va pas faire plaisir à notre invité. Hein.
Il paraît que quand on mange de la vache qui rit, on devient plus fort, c'est ma maman qui m'a dit ça.
Mais non, le meilleur c'est le qui rit, c'est trop bon.
C'est le Babybel parce que en plus avec le pot, on peut faire un nez de clown, c'est rigolo.
Ouais, c'est rigolo, mais bon, heureusement les adultes ne pensent pas comme ça, enfin pas tous quoique.
C'est le Saint-Mauré, tu mets avec du saumon et du citron, alors que ce soit en apéro ou en plat, franchement c'est un régal.
C'est le caprice des dieux parce qu'en fait on peut le manger à deux.
Donc bravo pour le marketing, bravo
invité,
sur la pub.
Voilà.
Non, rassurez-vous justement, mais c'est pour avoir une réaction déjà de se dire voilà, certains pensent comme ça. Là on va parler de vrai fromage, du fait maison, voilà. Avec du goût, car oui, la France est, allez on va dire, l'un des deux pays du fromage, et heureusement il y a des gens qui en préfèrent d'autres.
C'est le maroilles, alors ils sont très forts, mais finalement en goût il n'est pas si fort que ça, et en plus j'en fais de la tartiflette au maroilles, c'est excellent, et voilà, j'aime autant cru que cuit.
Alors depuis que j'ai arrêté le lait de vache, c'est vrai que j'aime beaucoup acheter de la tome de brebis.
Le rocamadour, il est fort, il est doux, il est un peu coulant.
Moi, mon fromage préféré, c'est le Beaufort, bien sûr. Tout simplement parce que c'est le meilleur fromage du monde.
Et voilà,
tout simplement.
Tous les goûts sont dans la nature, il faut retenir un truc, c'est des fromages qui sentent. C'est à ça qu'on voit qu'un fromage est bon, il faut qu'il sente, comme nous le prouve cette dame.
Mon fromage préféré, moi, c'est le Roquefort, parce qu'il il pue beaucoup, et j'avoue que ça fait partie des choses qui me plaisent beaucoup dans ce fromage. Et en plus de ça, je suis la seule à l'aimer à la maison, donc quand j'en achète, en fait, il n'y en a que pour moi, et ça, c'est trop cool.
Ça pue pas, le Roquefort, non?
Vous savez quoi? On va demander à son mari.
Alors oui, quand elle mange du roquefort, ça pue tellement qu'avec les enfants, on préfère aller faire un tour et laisser nos odorats tranquilles.
Donc voilà, je vous laisserai
Marie
déguster.
Délicat, franchement, délicat.
Bah, c'est vrai que ça sent fort. Et enfin, je vous quitterai avec un petit conseil pour déguster, évidemment avec modération, du fromage.
Pour moi, c'est le soir, à la fin du dîner, avec un bon verre de vin rouge.
Voilà, parfait, on parfait, est en France. Hein. Bon appétit à tous. Allez. Maintenant, c'est parti, on parle fromage.
Merci Clément. Beaucoup Clément pour ce reportage de terrain réalisé à la perfection, comme toujours, un reportage bien affiné.
J'ai pris 3 kilos dans ce reportage.
Allez, on va voir tout de suite ce que pense notre invitée de tout cela, ce qu'elle vient d'entendre, parmi vos témoignages. Bonjour Marie-Anne Quentin.
Bonjour.
Vous êtes fromager affineur à Paris dans le 7e arrondissement. Vous êtes aussi fondatrice de l'association pour le respect des traditions fromagères françaises. Alors c'est quoi en quelques mots cette association d'ailleurs ?
C'est une association qui a été créée en 1990, qui est plutôt en sommeil maintenant. On avait des problèmes avec la bactério et on avait créé cette association qui était une association où on regroupait du producteur de lait au détaillant. Et ça, ça n'existait pas. Et si vous voulez, on s'est beaucoup battu. On est même allé à Bruxelles parce qu'il y a eu une grosse pétition. On veut tuer nos fromages au lait cru.
Bah oui.
Et on a tapé sur l'Europe. Et en fait, quand on est allé au ministère de l'Agriculture à Paris, on s'est aperçu que les normes édictées étaient franco-françaises.
Aïe, aïe,
on avait
aïe,
voulu laver plus blanc que blanc.
Oui.
Donc, voilà.
Alors, le fromage, pour vous, c'est évidemment une histoire familiale. Vous êtes tombée dedans toute petite. Mais je crois que vous restez toujours émerveillée, après tant d'années, qu'on puisse faire tant de choses avec juste du lait. C'est bien ça ?
Oui, c'est-à-dire que je ne me prends pas la tête tous les matins quand je rentre dans ma boutique. Mais je trouve que faire autant de pâtes avec du lait... du lait de vache, de brebis ou de chèvre, je trouve que c'est comme le vin, si vous voulez, à partir du raisin, et là c'est à partir du lait. Et faire autant de variétés, c'est quand même une spécificité française qu'il faut défendre.
Et il y a un côté effectivement tout à fait magique. Alors parlons un peu d'histoire du fromage pour démarrer. Ça remonte à quand les premiers fromages fabriqués par l'homme ? C'est très 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 loin, hein, je crois.
Ah oui, c'était la préhistoire. Si vous voulez, le lait accaillé naturellement, donc ils ont mangé déjà du fromage très très frais. Et puis après, on s'est aperçu que si on enlevait le petit lait, si on le pressait un peu, ça se gardait un peu plus. Et puis le sel est arrivé...
C'est pour des soucis de conservation du lait, en fait, au départ, hein, c'est ça hein,
ouais. Ce sont les fromages, ce sont des conserves de lait, tout simplement. Hein. Vous savez, comme le comté, qui peut se garder au moins 3 ans, même plus... c'est de la conserve de lait.
Mais c'est bien au 19e siècle hein, que le fromage vit sa consécration. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Ça, c'est une histoire fabuleuse. C'était en 1815, au congrès de Vienne. Alors, ils s'ennuyaient à mourir. Hein. C'était peut-être les débuts de l'Europe, mais il y avait beaucoup de pays. Et ils ont eu l'idée de créer un concours de fromage. Alors, il y avait Talleyrand, Metternich, j'en passe. Et Talleyrand était un grand gastronome. Hein. D'ailleurs, son cuisinier, c'était Antonin Carême. Enfin, bon. Et donc, ils ont fait venir des fromages de tous les pays. Et là, de la bouche même de Metternich, le Brinemont a été consacré roi des fromages et prince des desserts.
Wow.
Voilà. Alors là, c'est une consécration magnifique.
Effectivement. Aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'on a une idée de la consommation des fromages, de fromages des Français ?
Alors oui, alors je vais assez abonder dans le sens du monsieur qui vient...
Du micro-trottoir.
Oui, du micro-trottoir. Parce que si vous voulez, la plus grosse production de fromage, c'est de l'Emmental.
Mmh.
Hein, 164 000 tonnes environ.
C'est énorme.
C'est énorme. Quand vous pensez que le comté, qui est la première des AOP, parce qu'il faut distinguer les AOP, 64 000 tonnes.
Il y a une grosse différence.
Et vous voyez par exemple, le camembert. Mmh. Camembert AOP, 24 millions de pièces. Les camemberts qui sont fabriqués en Normandie, hein, mais qui n'ont pas l'AOP. D'ailleurs, il y a un problème en ce moment là, avec fabriquer. Alors qu'ils sont fabriqués en Normandie, ils pourraient mettre lait de Normandie, parce que la Normandie, c'est porteur. Bon, bref, 240 millions de pièces. Vous voyez le rapport ? 85% des Français ne mangent pas du fromage au lait cru, c'est du fromage pasteurisé. Alors moi, je suis vraiment Je défends le fromage au lait cru, mais on ne peut pas dire que la majorité des Français ne savent pas manger.
Bien sûr. Hein. Alors, Marie-Anne Quentin, vous allez rester avec nous. On va poursuivre cette enquête que l'on mène ce matin avec vous au cœur du monde merveilleux des fromages. Dans un instant, on va s'intéresser d'un peu plus près à la fabrication du fromage, justement le caillage, le moulage, l'affinage. De quoi s'agit-il précisément? Et puis, on va rappeler aussi quelques astuces du quotidien pour les déguster dans les règles de l'art. C'est du pratique qui nous fait vraiment du bien ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre ce matin. Et on se pose cette question, pourquoi aimons-nous autant le fromage? Et pour en parler dans les règles de l'art, nous avons fait appel à une experte, Marie-Anne Quentin. Je rappelle que vous êtes fromager affineur à Paris et l'auteur du livre Guide de l'amateur de fromage chez Albin Michel. Alors, vous nous l'avez dit, hein, on consomme du fromage depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, comment le fabrique-t-on? Eh bien, tout dépend lequel on veut fabriquer, bien sûr. Mais oui. quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut toujours trois ingrédients, c'est bien ça?
Oui, il faut du lait. Hein. Sans lait, on ne peut pas faire de fromage. Faut de la présure et faut du sel.
Bon, ben, c'est bon, j'ai tout ça.
Bon. Et donc, le lait, effectivement, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais il peut être cru ou pasteurisé. Ça change quoi sur le produit final?
Le goût.
Ouais.
C'est-à-dire que les fromages au lait cru, c'est des fromages qui ont beaucoup plus de caractère et qui ont plus de typicité et dont les saveurs sont... Il y a une palette de saveurs qui est plus complexe. Bon, mais les fromages pasteurisés...
Vous ne mangez pas de Babybel, de Kiri et de vache Kiri, j'imagine,
non.
Vous
Non. Ni vos enfants,
les petits-enfants.
Alors, en fonction du type de fromage, les procédés de fabrication, évidemment, diffèrent, mais il y a quand même quelques opérations fondamentales. Le caillage, le moulage, le salage et l'affinage. Rapidement, chaque opération consiste en quoi?
Le caillage, vous avez compris. Mmh. Le caillage, vous avez compris. On met de la présure. Quelquefois, c'est un caillé lactique, d'ailleurs. Le lait se caille naturellement. Mais la plupart du temps, on met de la présure. Après, on le moule. Alors, il y a des petits moules, des grands moules, des moules carrés, des moules ronds, selon la forme du fromage. L'égouttage.
L'égouttage, d'accord. Hein,
on fait partir le petit lait. Quelquefois, ils sont pressés, comme le comté. Il faut que le petit lait, on presse.
Le salage?
Et le salage, qui est très, très important. C'est salé dans des machines, maintenant. Hein, ou alors par immersion dans la saumure, de l'eau salée. À la main, aussi.
Et l'affinage, alors, comment
on fait? L'affinage, voilà. Alors, ça... Vous savez, il y a eu une expérience de fête il y a très longtemps. Ils avaient mis un Beaufort affiné dans des caves de comté et un comté dans une cave de Beaufort. Eh bien, figurez-vous que le comté n'avait plus du tout le goût de comté, mais il n'avait pas le goût de Beaufort, et vice-versa. L'affinage, c'est un processus naturel, mais il faut des soins au fromage. Vous voyez, par exemple, les époisses, on les affine avec du marc de champagne coupé d'eau. Le Munster est lavé avec un peu de bière.
Ça, c'est chacun a son secret, quelque part.
Oui,
hein, c'est
oui,
ça.
Voilà.
Bon, on a la chance d'avoir un très beau plateau que vous nous avez amené ce matin. J'imagine qu'il n'y a pas de pasteurisé, il n'y a pas de fromage industriel. Qu'est-ce qu'on a un petit peu sur ce plateau?
Alors, vous avez deux comtés. J'ai apporté un comté grande réserve, qui a environ 18 mois, et après un comté 24 mois. Tous les deux sont des pâtes jaunes, c'est-à-dire que les vaches sont à l'herbe. Alors, c'est très important, vous me direz, parce que je trouve que c'est plus gras, c'est plus fruité. Après, nous avons du coulommiers, parce que c'est mon fromage préféré.
Ah, j'allais vous demander, c'est quoi le fromage préféré de la fromagère? Je me demandais bien.
Alors, pourquoi le coulommiers? Oui, ouais. J'adore le camembert, mais si vous voulez, le coulommiers, il a de la chair, beaucoup plus. Et...
Tenez, Julia, je vous donne un bout de coulommiers, un petit bout de pain.
Après, j'ai apporté du Roquefort, parce que c'est quand même le fromage le plus protégé. C'est un fromage, en plus, un des plus vieux, le plus protégé, avec une loi, etc.
Et puis, votre camembert des rois, quand même.
Alors, oui,
dites-nous un mot, parce que c'est inédit. Hein, c'est la première fois que vous fabriquez celui-ci.
C'est une petite innovation qui a lieu cette année, voilà. On a lancé le camembert des rois avec une fève à l'intérieur.
Pour ceux qui n'aiment pas la galette, ou même si on l'aime, hein, on fait les deux.
Et alors, la particularité, bien évidemment, il va être en vente à la boutique. Mais comme j'ai un partenariat avec Monoprix, il sera distribué dans toute la France. Et bon, bah, ça, c'est bien. Hein.
Et c'est un très bon camembert. Hein,
c'est un camembert au lait cru. Hein.
Excellent. Voilà. Alors, on va donner la parole juste quelques minutes à un médecin nutritionniste pour voir quelle place on peut consacrer justement au fromage dans notre assiette. Il est en ligne avec nous. Bonjour, docteur Cocol.
Bonjour.
Alors, le fromage, j'espère que vous n'allez pas nous dire le contraire, hein, parce qu'elle ne va pas être contente, notre invitée. Est-ce que c'est un bon aliment pour notre santé d'un point de vue global ?
Alors, je vais être copain avec elle. Oui, tout à fait.
Merci.
Pour quelle raison il est bon pour notre santé ? Qu'est-ce qu'il nous apporte éventuellement et pourquoi on en aurait besoin même, peut-être ?
Ah ben, on en a besoin parce que, bon, c'est une source de calcium, bien évidemment. C'est, ça vous permet donc de renforcer vos os, donc tout votre capital osseux. Et c'est vrai que nous sommes dans une génération actuellement qui se méfie de plus en plus des produits laitiers. Donc actuellement, ce qu'on constate, c'est que cette génération, malheureusement, va vieillir et va avoir petit à petit des problèmes d'ostéoporose, alors que le fromage est l'un des moyens que nous disposons de renforcer notre capital calcique, qui est vraiment mis à mal actuellement par tous les vents mauvais contre le lait, etc., sachant que le fromage est beaucoup mieux toléré que le lait, vous savez, parce qu'il y a de la lactase, donc au niveau des intolérants au lactose, il y a pas de problème, la plupart peuvent consommer des fromages, bon, pas forcément au lait cru, évidemment, mais ça va être des fromages à pâte pressée, des fromages durs, etc., il n'y a aucun problème là-dessus.
Docteur Cocol, il y a tout de même peut-être des fromages qui font plus grossir que d'autres, hein. Chez les gens, par exemple, qui cherchent à perdre du poids, est-ce que vous leur conseillez d'en éviter certains ?
Non, je suis jamais dans l'interdit parce que tout est question de portion.
Vous pouvez très bien
prendre un fromage qui est un peu plus riche en matière grasse. C'est pas pour autant que si vous faites pas, vous jouez pas au Bélix et vous tombez
avec
pas.
Avec Mélanie, on vient de s'enfiler un demi-colomier, c'est grave ça ?
23%
oui,
de matière grasse.
Par contre, attention. Oh, oui.
Ah bon ? Moi je dis 23, ça va.
Mais oui, c'est pas beaucoup.
Il y a des fromages, la cancoyotte, etc. Il y a des fromages comme ça qui sont pas du tout riches en matière grasse.
D'accord.
Donc il y a beaucoup d'idées préconçues. Alors il faut garder 30 grammes à peu près par jour. C'est ce qu'on conseille, nous, donc une portion raisonnable de fromage.
Donc on peut en manger tous les jours, on est d'accord, hein ?
Ah, complètement. Vous pouvez en manger tous les jours. Alors simplement, vous faites attention si vous êtes hyper tendu, sachant que le fromage, il y a quand même du sel. Donc de limiter un petit peu la consommation à côté d'autres produits salés, comme le pain, par exemple, parce que c'est dans la manie française de faire pain plus fromage, qui est peut-être très bien, mais ce qui est quand même une association très salée.
En tout cas, moi, ce coulommier, je confirme, il peut se manger sans pain. Ouais, il est très bon.
Il est parfait. Merci beaucoup, docteur Cocol, pour ces précisions. Je reviens vers vous, Marianne Quentin, donc fromagère passionnée. Si je vous dis camembert, brie, coulommier, ils font tous, hein, je crois, partie des fromages à pâte molle, à croûte fleurie, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Parce que c'est une croûte qui est naturelle, si vous voulez, qu'on a ensemencée au préalable avec du Penicillium candidum, et qui donne cette jolie moisissure blanche. Hein, parce qu'il faut savoir, avant, ces fromages-là, ils étaient bleus, verts, parce que c'était du Penicillium glaucum naturellement. Présent dans le lait, et c'était pas un bel aspect. Donc on est arrivé à ces jolies couleurs.
Il y a des saisons en fait pour les fromages, je crois, comme pour les fruits et légumes finalement. En ce moment-là, début décembre, c'est la saison de quoi, selon vous ?
Alors bon, j'ai parlé du comté, le Roquefort est en pleine saison, le Mont d'Or, ça c'est le fromage d'hiver par excellence, et de fait, hein, le Saint-Nectaire aussi est en pleine forme. Et le petit reblochon que je vous ai apporté est en pleine forme.
Petite dernière question, c'est quoi le secret du maroilles, le fromage du Nord le plus connu ? C'est pour un ami que cette question obsède. Pourquoi cette odeur alors qu'au goût, c'est pas tellement fort ?
Et puis cette couleur rouge.
Ouais.
Mais vous savez, que ce soit le maroilles ou les poisses, déjà la couleur rouge, ça nous interpelle, on a l'impression que c'est fort. En fait, ce sont des fromages très fins et qui sentent plus qu'ils ne goûtent. Pourquoi ? C'est le ferment du rouge, naturellement présent dans le lait, même si on ensemence aussi quelquefois un peu, qui donne cette jolie couleur orangée. C'est pas rouge d'ailleurs, c'est orangé. Et c'est des fromages quand même, le maroilles, ça met 2 mois pour être affiné à cœur. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, sincèrement.
C'est
alors,
délicieux.
Pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, ils se bouchent le nez, ils goûtent, ils verront que c'est pas fort du
tout.
C'est une technique, hein. Voilà, on se bouche le nez, on goûte et après
et on en reprend.
Et on en reprend. Et on fait même des raclettes avec. Voilà. Marianne Quentin, surtout vous restez avec nous. On a encore besoin de vous pour apprendre à déguster nos fromages préférés de la meilleure façon qui soit. On va parler température, conservation et puis on prendra aussi quelques questions de nos auditeurs. D'ailleurs, je le rappelle, vous pouvez nous joindre au 3921, le répondeur d'Europe 1 ou encore sur nos réseaux sociaux, notre compte Instagram par exemple. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On tente toujours de rendre notre vie quotidienne plus savoureuse ce matin avec notre guide dans l'art de bien déguster le fromage. C'est vous, Marianne Quentin. Je rappelle que vous êtes fromager affineur. Alors, on a quelques questions très pratiques pour vous. Déjà, quand on a acheté du fromage, où faut-il le conserver dans l'idéal? Est-ce que le réfrigérateur, c'est vraiment le mieux? Et si oui, à quel endroit du réfrigérateur?
Alors, l'idéal, c'est vrai que c'est le réfrigérateur. À moins que vous ayez un garde-manger comme on faisait plein nord, où il ne voit jamais le soleil. Maintenant, c'est fini. Bon, donc, réfrigérateur et boîte hermétique.
Pourquoi la boîte
hermétique? Eh ben, parce que, première chose, ça conserve l'humidité du fromage. Et ça, c'est très important.
Donc, ce n'est pas juste pour l'odeur hein, dans le frigo. Hein.
Ce n'est pas juste pour l'odeur. D'autre part, il faut l'emballer séparément dans les papiers qui vous ont été fourmis. Ou dans un film. Ne mettez pas vos fromages pêle-mêle comme ça.
D'accord.
Il faut qu'ils soient protégés.
Mmh. En tout cas, on ne les laisse pas à l'air libre.
Non.
Ok.
Et vous mettez votre boîte au réfrigérateur. Ça a un avantage aussi, c'est que le matin, au petit déjeuner, vous ne sentez pas le maroilles, les poisses ou ce que vous avez acheté. Et d'autre part, vous la sortez une heure avant.
Oui, parce qu'autrement, c'est trop frais, c'est pas très bon.
Voilà.
Bon,
donc, vous la sortez une heure avant.
Mais moi, j'ai une question, parce que ça se conserve combien de temps, le fromage? Parce que quand on va chez un fromager, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a rien marqué dessus. Donc, on ne sait pas combien de temps on peut le garder.
Bah, les fromages, style un camembert affiné au lait cru.
Votre camembert des rois, là. Bon, je ne suis pas sûre qu'il dure très longtemps, de toute façon, une fois ouvert, mais admettons.
Bon, bah, vous pouvez le conserver 8 jours.
Hein. Quand même. 8 jours. Mais le compter, par exemple, 24 mois ou 18 mois?
Vous pouvez le conserver 10-15 jours. Alors, ce qui risque d'arriver, par exemple, sur le comté, c'est qu'il y a un peu d'humidité qui ressort, des petits points un peu humides. Vous grattez, hein, vous inquiétez pas,
on
c'est
pas
mortel.
On ne jette pas pour ça.
On jette pas,
oula,
surtout pas.
C'est un sacrilège, Julia. On a cette question de Robert au 3921. Il demande, quel est selon vous le fromage le plus puissant de tous, qui sent le plus fort? On a parlé du maroilles tout à l'heure, mais finalement, en goût, il n'est pas
alors,
si fort.
Alors, il y a le puant de Lille, le puant macéré.
Qui porte son nom?
Alors, c'est un maroilles, mais c'est à la taille d'un maroilles, mais qui est mis dans la saumure. Le gris de Lille, on l'appelle. Alors là, c'est vraiment puissant. Il y a la boulette d'Avesnes.
Mais c'est puissant au nez et en bouche, les deux?
C'est puissant au nez et en bouche. Voilà.
Il faut aimer.
Les
quoi.
Deux. Voilà.
On a une question de Sarah sur Instagram qui dit « La qualité du pain qu'on mange avec tel ou tel fromage a-t-elle une importance? Comment choisir le pain selon vous? D'ailleurs, faut-il peut-être s'en passer parfois ?» Le docteur Cocolle, nutritionniste,
nous a dit « Oui,
mais vous, fromager, vous en
mangez quoi ?» Moi, je mange toujours un petit bout de pain, mais je privilégie des pains qui font du bien aux céréales, avec du lin, des graines de tournesol, voilà.
Ça apporte un plus au fromage, au goût du fromage, vous trouvez?
Je ne sais pas si ça apporte un plus, mais moi, c'est mon avis. Après, vous savez, vous avez du pain avec des noix, du pain avec des abricots,
des figues.
Bon, mais après, je trouve qu'on en perd le goût du fromage un peu.
Moi, je dis ça trop fort. J'ai une question très pratique. Hein. Moi, j'achète souvent du fromage chez le fromager qui me fait de magnifiques plateaux, comme celui que vous nous avez apporté de votre boutique. Je ne sais jamais comment le couper, le fromage. Alors, le comté, ça va, j'ai coupé dans la largeur, on va dire. Mais un fromage qui va arriver, je ne sais pas, qui est celui-ci, par exemple, c'est lequel, dites-nous?
Le charolais.
Donc, qui est en hauteur, il est rond. Comment je coupe ça?
Bon, bah vous le coupez dans le sens de la hauteur.
Je fais des quartiers, hein, c'est ça, par exemple?
Mais ce n'est pas très pratique, je vous l'accorde. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est le mettre...
De côté,
vous enlevez la tranche, et puis après, vous le coupez en rondelles.
C'est ça, d'accord.
Mais normalement, vous le coupez...
La grande règle, c'est que personne ne se retrouve avec un morceau uniquement de croûte, quoi.
Bah
enfin,
voilà,
c'est ça, hein,
c'est
on
ça
est
la
d'accord.
Règle.
Hein. Sauf vous, Mélanie.
Moi, je m'en fous, je mange tout le monde.
Mélanie Gomez mange les croûtes.
Vous savez quoi, je lorgne les petits morceaux de croûte que vous avez laissés.
Tenez, donnez-moi mes croûtes avec un grand plaisir, Julia.
Alors moi, ce que je fais, je mange d'abord la chair et la croûte toute seule.
Bah oui, le meilleur pour la fin, je suis d'accord avec vous.
Vous mangez les croûtes?
Mais après.
D'accord.
Parce que je trouve que si vous voulez, quand on mange la croûte avec du camembert, ça dénature un peu. Qu'après, toute seule, c'est très bon.
Hein. Et pour les on parlait là de l'hiver qui arrive, les raclettes, vous conseillez quoi alors? Parce que le maroilles, vous y croyez le maroilles?
Écoutez, tous les fromages se font chauffer. Donc le maroilles, pourquoi pas? Je vais vous dire, bon... Et aérer après, mais c'est excellent.
Mais la raclette, selon vous, enfin, c'est ce que j'ai lu dans votre bouquin, elle n'a pas besoin de tant de fioritures autour, un peu de pommes de terre.
Voilà.
En fait, viande de grison, admettons, mais après tout ce qu'on propose avec, les œufs de caille, tout ça, vous n'êtes pas trop pour vous. Hein.
Écoutez, à chacun son mauvais goût. C'est ma phrase. Moi, je dis, il faut se faire plaisir. Donc, si vous aimez la raclette avec des œufs de caille ou avec de la mortadelle, des champignons, ouais. Ce que vous voulez. L'important, c'est que vous vous aimiez et que vos invités aiment. Bon,
mais
voilà.
Toujours avec du fromage, en tout cas, on l'a compris. Oui, merci beaucoup, Marie-Anne Quentin, d'avoir été notre guide ce matin pour découvrir tous les secrets du fromage qu'on
merci
aime tant. On a appris évidemment beaucoup de choses et je signale à nouveau votre livre, Le guide de l'amateur de fromage chez Albin Michel et évidemment votre fromagerie à Paris aux 12 rue du Champ de Mars. Merci encore.
Merci.
On va maintenant changer de thématique et aborder un sujet très concernant puisque plus de 8 millions de Français en souffrent, l'hypocondrie. Alors comment aider ces patients imaginez. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Et oui, peut-être que vous faites partie de ces gens qui paniquent pour un mal de tête, qui stressent souvent pour leur santé alors qu'ils n'ont rien. Et bien surtout, dans ce cas-là, restez avec nous car notre invité a des solutions à vous proposer. Bonjour Antoine Spatt.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue clinicien et l'auteur du livre « Tu crois que c'est grave ?» aux éditions Larousse. Alors est-ce qu'au fond, on n'est pas tous un peu hypochondriaques? Parce que, d'ailleurs, on sait combien...
Vous, oui,
de...
je crois.
Bah, moi, je suis hypochondriaque en prévention. Je vous raconterai tout à l'heure.
On fera la consultation. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Non. On a tous eu des moments dans sa vie où on s'est inquiété pour un mal ou pour un autre. Et c'est normal, puisque c'est un mécanisme de vigilance, d'être attentif à, finalement aux signes du corps. Mais l'hypochondrie, c'est quelque chose quand même qui se caractérise par une répétition de ces inquiétudes, une durée dans le temps, c'est toujours ce qui est important, et l'aspect imaginaire, c'est-à-dire une inquiétude qui est déraisonnable par rapport à l'avis d'un médecin qui qualifie le problème de bénin.
De ce que je peux observer autour de moi, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est plus masculin comme problème.
Masculin, pourquoi ça serait plus masculin?
Bon, je connais surtout des hommes hypochondriaques.
Avec notre fromagère qui est d'accord aussi.
Elle nous dit pour mon mari, ça m'intéressera. Moi, pour le mien aussi, Julia.
Bah, oui,
j'ai pas le vôtre, mais bon.
Pour le coup, les hommes se plaignent plus de leur corps et les femmes peut-être un peu plus de leur vécu psychologique. Et d'accord. Ça, c'est peut-être la distinction. Les hommes ont moins de facilité à parler de leur âme, de leur esprit, de leur fonctionnement. C'est peut-être ce qui fait qu'ils ont tendance à attribuer au corps tous les maux qui les assiègent.
D'accord. Voilà. Alors, il y a plusieurs formes d'hypochondrie, en fait. Et c'est quoi la véritable hypochondrie? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Elle se caractérise justement par ces critères qui sont surtout la durée, l'aspect, comment dirais-je...
Répétitif.
Répétitif, mais déraisonnable de la plainte. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a quelque chose d'imaginaire dans la plainte. Il y a aussi, pour qualifier quelqu'un d'hypochondriaque, il faut qu'il soit passé par le médecin et que le médecin ait diagnostiqué quelque chose de néant. Et ça, c'est et surtout qu'il y ait ce qu'on appelle une anosognosie.
C'est quoi ça?
C'est un peu un nom
barbare.
Ça a l'air
grave. Hein. Ouais. Ça fait peur.
Non, bah, c'est-à-dire qu'il n'ait pas connaissance de ses troubles. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours assez étonnant de voir quelqu'un qui est là à se plaindre de quelque chose. On peut lui dire et lui répéter qu'il n'y a rien, mais non, il est absolument convaincu qu'il a quelque chose. Et surtout, il n'a pas conscience que son trouble, c'est justement quelque chose d'imaginaire. Et c'est ça qui caractérise en partie l'hypochondrie. C'est-à-dire qu'on
peut lui... croit dur comme fer, quoi.
Et il y croit dur comme fer, ouais. Et c'est toujours ce qui est déroutant avec ce genre de problématique, c'est qu'on est confronté... presque à la limite d'un petit délire. Quoi. On se dit, et pourtant le réel c'est bien ça, il n'y a rien, les radios sont bonnes, le scanner est bon, l'IRM est bon, le PET scan est bon, il a tout fait, il est passé par l'avis du médecin des États-Unis le plus spécialisé dans le domaine.
Et pour autant, il est persuadé qu'il va mourir.
Et pour autant, il est quand même convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui.
Est-ce que l'épidémie de Covid a aggravé les choses, déjà chez les hypochondriaques existants, ou on en a créé de nouveaux? Quoi, je veux dire.
Alors, l'épidémie de Covid, elle a aggravé surtout l'anxiété généralisée de beaucoup de personnes. Mais le vrai, entre guillemets, hypochondriaque, pas forcément, parce que on lui a donné des règles assez claires et c'est ce dont il a besoin. Ah, voilà.
Oui. Il a dû être rassuré de voir que finalement beaucoup de gens étaient comme lui, entre guillemets, non peut-être.
Oui, puis quelque part, il avait raison de se méfier.
C'est ça, ça leur a donné raison.
Et voilà. Il doit adorer le masque, hein, non ?
Il adore le masque, il adore le gel, il adore toutes les petites consignes qu'on a pu lui donner. Oui,
d'accord.
Oui. Un vrai hypochondriaque va par exemple mettre son portable dans un sachet congélation, vous savez, pour ne pas contaminer, ne pas recevoir...
Donc c'est plutôt une bonne période pour eux, en fait.
C'est son époque. Hein.
Paradoxalement, ils peuvent être un peu rassurés. Oui, c'est
par l'hygiénisme.
Oui, voilà, c'est ça. L'hypochondriaque national, c'est Michel Drucker. C'est un peu connu, notoirement connu. Bon, il n'était pas beaucoup plus inquiet qu'avant. Donc, pour lui, tout allait bien.
Exactement. Ouais. Alors, on est hypochondriaque vis-à-vis de toutes les maladies ou seulement une certaine catégorie de pathologies en général ?
Oui, non, c'est vrai qu'on est hypochondriaque surtout lorsqu'on a le sentiment qu'il y a un risque létal. C'est-à-dire que face à une maladie grave. Et tout peut être prétexte à une maladie grave, un petit bouton qui pousse, je ne sais pas où, sur le nez, ou n'importe quoi, ça peut être...
Un mélanome, un cancer
un petit problème à l'estomac, c'est finalement le cancer, c'est l'argument le
C'est
plus
le cancer, non, qui leur fait peur aussi, beaucoup aux hypochondriacs.
Le cancer, les problèmes cardiaques, les AVC, enfin tout ce qui vous prend au détour sournoisement et qui peut vous rétamer
définitivement. Alors Antoine Spatt, on n'en a pas fini avec vous. Nous allons poursuivre ensemble cet accompagnement pour tous les hypochondriacs qui nous écoutent. Alors en pratique, comment retrouver un état normal d'inquiétude vis-à-vis de votre santé ? On va vous proposer des solutions concrètes pour se débarrasser de l'hypochondrie. Tout ça, c'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et nous sommes toujours en studio avec Antoine Spatt, psychologue, clinicien et l'auteur du livre « Tu crois que c'est grave ?» aux éditions Larousse. Alors, on est hypochondriaque de naissance ou c'est quelque chose que l'on va développer au cours de la vie ?
C'est quelque chose que l'on développe.
On ne naît pas hypochondriaque ?
Non, il n'y a pas de gène, a priori, jusqu'à présent, en tout cas, je ne crois pas, de l'hypochondrie.
Puis il n'y a pas d'enfants tellement hypochondriaques, en réalité. Ou ils ont des TOC, éventuellement.
Il y a des
enfants
qui sont anxieux par rapport à des troubles somatiques, c'est-à-dire qui ont des difficultés liées au corps. Donc si, ça existe.
Mais il n'y a pas d'enfants qui réclament des coloscopies, des radiographies.
Non, justement,
parce que les hypochondriaques passent des tas d'examens en général.
En général, tant qu'on est enfant, on a l'assistance de ses parents.
Voilà, c'est ça, a priori.
Et c'est en gros ce que l'hypochondriaque va chercher dans sa quête infernale des médecins. C'est finalement une espèce de soutien, une espèce de reconnaissance, une espèce de regard sur sa personne qu'il n'a plus justement parce qu'il a perdu, il n'est plus avec ses parents.
Mais très bonne question de Mélanie Gomez. Est-ce qu'on peut être hypochondriaque pour ses enfants ? Est-ce qu'on peut
On peut être très anxieux pour ses enfants. Oui, ça. Par contre, si vous voulez transmettre l'hypochondrie,
c'est possible.
C'est le meilleur moyen. Ouais. Donc, faut éviter de s'inquiéter trop, de trop prévenir finalement parce que. On parlait en aparté de l'anticipation anxieuse. Mmh. Par exemple, une mère qui a tendance à vouloir protéger trop son enfant, en le couvrant trop ou en le laissant, ou inversement, en ne prenant aucun soin et en le laissant sortir sans précaution, ça peut effectivement permettre de transmettre les facteurs de l'hypochondrie, l'anxiété, de manière générale. Donc, trop de sollicitations ou pas assez, on peut...
Modifier le comportement futur de l'adulte.
Oui, voilà, ouais.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus d'hypochondriaques aujourd'hui, là, au XXIe siècle ? Moi, j'ai l'impression que dans les années 50-60, il y en avait peut-être moins. Est-ce que c'est pas la faute, quelque part, aussi à Internet et à la Doctissimo mania ?
Oui. Je ne crois pas qu'il y ait plus d'hypochondriaques. Il y a toujours eu à peu près le même nombre d'hypochondriaques. On dit qu'il y a 13% qui se disent hypochondriaques, mais qui ne le sont pas en réalité. Il y a énormément beaucoup de personnes qui ont des anxiétés passagères et qui peuvent revendiquer des troubles sur leur corps. Et qu'on a tendance maintenant à qualifier d'hypochondriaque parce que le terme est entré dans le langage courant.
Sur des petites périodes, ce n'est pas la même chose qu'une vraie
hypochondrie. Voilà, c'est toujours la question de la durée. Il faut que ça dure 6 mois pour vraiment porter un diagnostic, comme on dit, d'hypochondriaque. Mais il y a énormément de personnes, et c'est vrai avec le Covid, qui sont devenus anxieux. Et ça, c'est légion. Et donc, sur les 13% qui se revendiquent hypochondriaques, je pense qu'il y en a très peu en réalité. Je ne sais pas quel est le pourcentage précis de vrai. Ouais.
Oui. On a des TOC aussi souvent, et ce n'est pas l'hypochondrie.
Alors,
hein.
On associe ça aussi parfois à de l'hypochondrie, quelqu'un qui va se laver les mains très fréquemment pour éviter les microbes, ou qui va mettre un masque, deux masques, trois masques pour éviter
le Covid.
Voilà, éviter le Covid. Oui, on associe ça parfois à une espèce d'hypochondrie, alors que c'est une anxiété excessive.
Voilà. Alors, si on veut guérir un hypochondriaque, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit, mais arrête de t'inquiéter, ou alors on l'envoie voir un psy?
Il vaut mieux quand même essayer de l'envoyer voir un psy, parce qu'ils sont assez rebelles à ce genre de précautions. Donc ils ont tendance plutôt à se défiler et à considérer, si on leur propose un psy, ils vont considérer qu'on ne les prend pas au sérieux, que leur discours ne vaut rien et qu'on ne comprend pas la véritable douleur dont ils souffrent. Donc c'est toujours un peu délicat de leur proposer ça. Mais par contre, il faut du donnant-donnant, comme je dis dans le livre. C'est-à-dire que s'il y a une plainte qui est répétée, on est à l'écoute d'une personne, parce qu'il faut quand même rester à l'écoute, il y a une réelle souffrance, hein, faut quand même pas minimiser la souffrance.
Faut pas se moquer de lui, quoi.
Non, faut pas se moquer de lui, c'est une vraie souffrance. Mais par contre, c'est donnant-donnant, effectivement. Souvent, c'est un peu comme ça que les personnes viennent en consultation, soit par leur médecin, parce qu'ils ont assommé de revendications leur médecin, qui finalement les envoie chez le psy. Ils y vont bon an mal an, sans trop y croire.
Mais il devrait être content, un médecin.
Oui, mais les, non, mais vous savez, on peut même se méfier d'un médecin, hein, ouais. Parce que il y a d'autres prétextes à disqualifier le discours de l'hypochondriaque, parce que c'est comme ça qu'il le vit. On disqualifie son discours, on ne le prend pas au sérieux, on ne croit pas que ce qu'il a, ou on n'a pas vu, où il n'y a pas le bon outil thérapeutique qui pourrait diagnostiquer.
Il n'existe pas encore cet outil, mais ouais, ça va venir.
Et
bientôt.
Ça va venir, et donc il faut aller chercher. Ouais. Et c'est une quête sans cesse chez l'hypochondriaque qui va chercher partout, partout. Et effectivement, sur Internet, pour revenir au début de la question, il y a ce qu'on appelle une cyberchondrie, c'est-à-dire que les personnes passent des heures à chercher qu'est-ce que ça pourrait bien être.
Tous les symptômes dans un moteur de recherche.
Si on a envie de se faire peur, c'est formidable. Hein.
Ah bah si vous allez sur un forum, là vous êtes certaine de vous faire peur.
Ouais, c'est ça. Comment vous les prenez en charge quand ils arrivent dans votre cabinet, les hypochondriaques? Parce que vous dites dans votre livre que leur corps est de toute façon très tendu, il y a une anxiété un peu généralisée. Donc je ne sais pas, la méditation, le yoga ou faire du sport, ça peut aider déjà dans un premier temps?
Oui, bah, le sport, ça aide pour tout, le sport. La méditation aussi, j'allais dire. Mm-hmm. Non, mais il y a des techniques un peu plus spécifiques, on va dire, de relaxation, d'espèce d'auto-hypnose qui sont quand même relativement efficaces. Déjà, pour permettre à une personne anxieuse ou à un hypochondriaque d'être plus apaisé dans son corps. Et quand il est plus apaisé dans son corps, il est plus ouvert à un discours psychologique. D'accord. C'est quand même une des conditions.
Je crois que vous avez une astuce, hein. C'est faire focaliser l'esprit d'un hypochondriaque sur autre chose que son symptôme. Alors moi je veux bien, mais comment on s'y prend? Racontez-nous.
Focaliser, c'est-à-dire qu'il faut déplacer l'attention sur le petit bouton qui apparaît.
Ou j'ai très très mal à la tête et je suis persuadée que je vais faire un AVC. Alors
voilà, qui est obsessionnel. On déplace, c'est-à-dire on essaie de proposer à une personne de déplacer son attention, de la défocaliser d'une partie du corps, de lui montrer aussi finalement l'aspect irréel de son anxiété. Parce que le propre de l'anxiété, c'est effectivement de focaliser un moment sur quoi que ce soit, sur une pensée, sur un point, une douleur du corps. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez toutes les personnes anxieuses et notamment les hypochondriaques. Ils ont tendance à focaliser. Donc tout le travail, finalement, c'est de se défaire de cette focalisation.
Leur suggérer un autre chemin, donc c'est de l'hypnose vous proposez.
Oui, c'est aussi ça, oui, c'est de l'hypnose. On dévie finalement l'esprit, si je puis dire, de l'objet de l'angoisse. Et on parlait de relaxation, par exemple, ou d'auto-hypnose. Le propre déjà de l'état de relaxation, c'est qu'à un moment, on se défocalise. Quand on sort d'une séance, tout le monde a expérimenté ça, vous faites un peu de yoga ou je ne sais quoi, vous sortez, vous êtes zen, vous avez oublié vos angoisses, vous avez oublié vos problèmes, et bon, ça peut revenir après. Mais le temps, en tout cas, de ces moments-là, ça vous permet de défocaliser. Et en général, ça peut persister dans le temps si on.
Ça
répète.
Revient pas. Ça revient pas quand on a fait plusieurs séances. Combien d'ailleurs vous préconisez de séances d'hypnose?
Oh, il y a pas de règle absolue. C'est toujours la question qui est posée, comme s'il fallait.
Mais on veut savoir si on doit en prendre pour des mois et des mois ou
des années.
Non, c'est pas des années, comme une espèce de postologie où on dirait voilà, vous avez 10 séances, 5 séances. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça dépend de l'ancienneté déjà du trouble. Ça dépend de la difficulté, l'ancrage de la difficulté. Plus c'est
ancien, plus c'est dur.
Plus
j'imagine.
C'est ancien et plus il y a un côté anosognosique, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de non-connaissance du trouble, plus c'est difficile.
Et donc, mieux vaut consulter assez tôt, en fait, hein, quand ces troubles émergent et durent déjà depuis 6 mois.
Évidemment, plus on consulte tôt, parce que c'est vrai, par exemple, pour les personnes anxieuses qui ont de manière ponctuelle des épisodes d'angoisse, par exemple la peur d'un arrêt cardiaque ou la peur d'un AVC, toutes ces personnes qui consultent très rapidement, en général, très rapidement, c'est très rapide. Oui.
Et est-ce que quand on somatise, ça fait partie de l'hypochondrie?
Ah, pas tout à fait.
D'accord.
Parce que la somatisation, c'est quand même une atteinte lésionnelle.
Ça veut dire quoi? C'est une vraie maladie, quoi.
Bah, y a quelque chose qui se passe vraiment. Il y a quelque chose qui est... vous avez
un ulcère à l'estomac.
C'est une atteinte lésionnelle. Tandis que l'hypochondriaque, il va avoir mal à l'estomac.
Mais il n'y a rien.
Voilà.
Oui, parce que l'hypochondriaque, il finit parfois, de temps en temps, malheureusement, par tomber malade. Quand il y a vraiment quelque chose qui est avéré, il est soulagé quand on lui dit « Oui, voilà, monsieur, il y a un ulcère !»
Voilà, quand il est vraiment malade, c'est toujours le paradoxe avec souvent les hypochondriaques. Quand ils sont malades, ils sont presque soulagés. C'est paradoxal. Hein.
Ouais, mais c'est terrible.
Et voilà, c'est terrible, oui, comme vous dites.
Parce que
graves, parfois, c'est presque...
Soulageant.
Oui, c'est très
enfin
étrange.
Quelque chose, on m'a trouvé quelque chose. Voilà, je ne suis pas fou, je n'ai pas tout inventé.
Toutes ces années à courir les médecins a bien servi à quelque chose, j'ai enfin trouvé quelque chose.
Ouais.
Il a l'aboutissement de sa quête, qui est une quête illusoire.
Oui, et puis on n'a pas parlé du trou de la sécu, mais c'est vrai que ça ne nous arrange pas tous ces hypochondriaques, 8 millions. Essayez de faire un effort, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, mettez-vous à l'hypnose. Merci Antoine Spad pour tous vos conseils et cet éclairage sur ce qu'est vraiment l'hypochondrie, un trouble bien plus fréquent qu'on ne l'imagine, mais dont il est possible de se débarrasser. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À présent, Julia, on va passer à notre séquence tendance. Il y aura d'abord de la gastronomie avec Sophie Menu, journaliste culinaire. Aujourd'hui, elle nous propose de découvrir et de cuisiner avec elle des gâteaux traditionnels pour la Saint-Nicolas. L'ambiance sera sucrée, je pense, dans quelques minutes dans ce studio. Alors, restez avec nous. Et puis, Sophie Braffman également viendra nous raconter les derniers potins du côté de la mode. Et Benjamin Lévesque, lui, fera un coup de projecteur sur ses nouveaux produits cosmétiques qui utilisent le lin, cette plante pour ses nombreuses vertu beauté. On va vous détailler tout ça sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbes. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi, le Conseil de défense sanitaire. Ce matin va se tenir d'ici quelques minutes. Il doit débuter à midi pile. Vers quoi se dirige-t-on? Vaccination des 5-11 ans, avancement de la date de début des vacances de Noël, présentation des cartes d'identité à l'entrée des restaurants et des bars. En plus du pass sanitaire, on va tout vous dire dès le début d'Europe Midi. Valérie Pécresse déjeune avec Éric Ciotti à Nice avant de se rendre à Saint-Martin-Vésubie, toujours dans les Alpes-Maritimes. Éric Ciotti qui propose à Valérie Pécresse, écoutez, de faire une campagne commune, une campagne en tandem. Est-ce que ça va plaire à Valérie Pécresse? Que va-t-elle lui répondre? On va en parler. Éric Zemmour a réussi son pari de rassembler plus de 13 000 personnes à Villepinte hier. Sa campagne est lancée. Parmi les prochains enjeux, il y aura la question des ralliements des personnalités de droite. On sera avec Louis Dragnel. Et puis les arrêts maladie en augmentation. Comment ça s'explique? Qui sont les personnes qui déposent des arrêts? On y reviendra également en détail. Voilà pour le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure, dans une demi-heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain. Rendez-vous à midi et demi.
Europe 1.
11h, midi 30.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Julia Vignali tous les jours. Et à présent, on va lancer notre séquence tendance. Et comme vous le savez, on commence toujours par la gastronomie à cette heure-là. Aujourd'hui, c'est Sophie Menu qui est avec nous pour cela. Bonjour Sophie.
Bonjour Mélanie.
Vous nous proposez du sucré au menu, je crois bien. Qu'est-ce qu'il y a dans votre besace?
Les douceurs de la Saint-Nicolas, vous allez voir. J'ai amené plein de choses.
Mais quelle bonne idée d'être passée par là. Ensuite, ce sera à vous de jouer. fait Sophie Braffman et je crois qu'on va justement se la jouer un peu langue de vipère avec vous ce midi. On va causer potin, c'est ça ?
Oui, le lundi c'est potin. Maintenant c'est comme ça et on va commencer avec des premiers potins dont un Julia qui va vous plaire puisqu'on va parler de The House of Gucci.
J'ai vu le film
vous l'avez
hier.
Vu bah, hier voilà. En plus, et bah, c'est super.
C'est scandaleux ça. Ouais.
Et enfin c'est vous Benjamin Lévesque qui allez terminer aujourd'hui ce tour de table avec le nouvel ingrédient miracle dans le secteur cosmétique et vous nous dites que c'est donc le lin, c'est ça ? Mais ça ne sert pas à fabriquer que des vêtements.
Et non, pas que du textile. Le lin, c'est le meilleur allié beauté pour notre peau, notamment pour l'hiver, vous verrez.
Merci beaucoup Benjamin, ce sera à vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on passe à table dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Elle est prête à nous régaler, elle a enfilé son tablier et nous on attend avec Mélanie, spatule et fouet à la main.
Non, oui.
Enfin, c'est pas vrai. Enfin, on attend surtout impatiemment la dégustation que vous allez nous proposer aujourd'hui, Sophie Menu. On vous écoute.
Oui, tout à fait, je vous ai apporté des tas de choses parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, vous n'êtes pas passé à côté de cette date, c'est la Saint-Nicolas. Alors j'en profite pour faire un petit message personnel à notre réalisateur qui s'appelle Nicolas.
Ah oui,
bonne fête.
Bonne fête Nico.
À mon fils aussi qui s'appelle
bonne
Nicolas.
Fête. L'anniversaire voilà. Fils de Sophie. Et alors, Nicolas Perrac, qu'on adore également.
Alors, il y en a plein, Nicolas.
Mais Nicolas Caro aussi, qui présente l'émission Livre, bien sûr.
Et un petit hors-sujet d'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire au chef Joseph Viola, qui nous écoute aujourd'hui et qui est fan de l'émission.
Ah, bah, ça, bon c'était anniversaire. Hors-sujet. Bisous.
Alors,
puisqu'on y est, je souhaite une bonne fête à mon frère, qui s'appelle Nicolas.
On va s'arrêter là. Bon, alors effectivement, c'est la Saint-Nicolas. C'est l'occasion de préparer et de parler de petits biscuits qui sont liés à ce jour de fête.
Mais c'est qui Nicolas ?
Alors Nicolas, la légende de ce personnage est liée à celle de Nicolas de Myre, qui est né en Asie mineure, dans ce qui est maintenant la Turquie, il y a très longtemps, au 3e siècle. Mmh. Il était protecteur des enfants, des matelots, des commerçants et il accomplissait toutes sortes de miracles. C'était un saint homme. Hein. Et la légende raconte qu'il aurait ressuscité des enfants qui étaient tués par un boucher.
Pas mal. Bien.
En fait, il s'était invité à déjeuner chez un boucher et il lui a demandé du petit salé. Et le gars, pensant qu'il était découvert, lui a avoué qu'il avait tué ses trois petits-enfants.
Oh, et qu'il avait mis du sel dessus.
Ouais, alors, alors il a ressuscité, puisque c'était un saint. Ils étaient bizarres, les bouchers, à cette
heureusement
époque.
Heureusement qu'il
quand même
est passé par là. Hein.
Heureusement, il a ressuscité ses trois petits-enfants. Et puis, pour punir le boucher, il a attaché à son âne. Et du coup, ce Nicolas a pris le nom de...
Père Fouettard.
Bravo, Julia, elle suit. Mais moi, je préfère quand même l'histoire qui raconte qu'il est devenu saint Nicolas, puis Santa Claus, et enfin...
Le Père Noël.
C'est bravo, Dieu. Alors, il est d'ailleurs représenté avec un bonnet rouge, une barbe blanche et une croix dans la main. Et c'est une campagne de publicité qui l'a encore plus immortalisé, on va dire, en 1930, la Coca-Cola, hein, puisque c'est la marque est rouge et blanche. Et à l'époque, à Noël, en fait, vers Noël, ils buvaient moins de Coca-Cola. Donc, il y a un illustrateur qui s'est dit, je vais essayer de relancer les ventes.
Trouver une bonne idée.
Et il représentait, en fait, Saint-Nicolas donnant à boire du coca à des petits-enfants. Et il est devenu évidemment très célèbre.
Mais alors Sophie, c'est quoi le rapport avec la pâtisserie ?
Alors déjà, je voudrais savoir si vous avez été sage autour de cette
table. Oui, très, faites passer ça.
Parce que j'ai apporté des tas de friandises. Alors oh là là, il est coutume de préparer des biscuits traditionnels ce jour-là. Parce que depuis le jour de sa mort, Saint-Nicolas est célébré dans beaucoup de pays du Nord. Allemagne, Suisse, Autriche, Luxembourg, Pologne, Pays-Bas. Et chez nous, et peut-être que c'est d'ailleurs chez nous, Julia, ne vous étouffez pas, en fait, dans l'Est, qu'on fête le plus la Saint-Nicolas. Alors, mais je voudrais faire une petite aparté parce que je sais que Sophie quelque chose à nous, même chanter, non Sophie ?
Alors moi j'ai grandi en Hollande et en Hollande on fête Sinterklaas. Donc c'est... Ah ben c'est la petite chanson. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje, dank je Sinterklaasje. Voilà, c'était cadeau, c'était pour vous.
Bravo, merci Sophie. Alors, je fais passer ça aussi. Alors ça, ce sont des ménéleux. Ce sont ces fameux petits biscuits que l'on prépare dans la nuit du 5 au 6, puisque Nicolas passe chez tous les enfants sages. Hein, je répète, il faut être très sage.
Très.
Et il, alors, les enfants lui posent un petit verre de vin, ou de vin chaud, ou de lait. Et puis lui, il apporte en fait ses petits biscuits, c'est la tradition. Ménéleux, ça veut dire petit bonhomme.
D'accord.
Et je vous ai apporté aussi des bredeleux.
Alors ça, c'est typiquement alsacien, parce que je voulais vous rappeler que ce sont les marchés Noël qui ont commencé début décembre, et pendant tout le mois en Alsace, et je vous encourage à les passer quelques jours, si vous pouvez, ou un week-end, parce que c'est vraiment génial. Vous avez eu déjà l'occasion d'y aller ?
Jamais.
Jamais. J'aimerais bien faire le marché de Noël.
Sophie Brachmann, je pense qu'elle est retournée en enfance. Là. Elle mange tout.
Strasbourg, Colmar, Kaisersberg, Ribeauvillé, c'est des villages incroyables où on peut trouver ces biscuits.
Et vraiment, je voulais remercier votre mari qui nous a ramené toutes ces friandises. Merci à lui.
L'Est ce week-end, on sera tout dans cette émission.
Sophie, est-ce que vous pouvez nous donner la recette si tant est que quelqu'un veut le faire chez soi?
Mais oui, vous Julia, vous allez la
bien
faire.
Bien sûr, mène-le, hein, c'est ça.
Mène-le, petit bonhomme. Allez. Alors très simple, vous délayez un sachet de levure de boulangerie dans 30 centilitres de lait tiède. Dans le bol d'un robot, c'est mieux d'avoir un robot, vous versez 600 g de farine, 50 g de sucre, un œuf entier, 60 g de beurre pommade et vous mettez en marche. Je suis contente de voir que ces biscuits ont un succès.
Quel succès.
Ensuite, vous versez le lait, vous continuez de faire tourner jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Vous laissez gonfler pendant au moins 3 heures. En fait, c'est le principe d'une brioche. Puis on dégaze, vous savez ce que ça veut dire dégazer ?
Non, mais
on retire le gaz.
Oui, mais comment ?
Ah, j'en sais rien.
On tape en fait, on tape sur la pâte comme ça avec son poing et ça enlève en fait les bulles d'air qui se sont formées. Et là, c'est le moment qu'interviennent peut-être les enfants. Hein, autant les occuper, surtout si on fait ça un week-end et qu'il pleut. On leur demande de former.
Surtout quand les classes sont fermées, hein, parce que moi j'en ai une à la maison là, en ce moment.
Voilà, mais attendez, il y a les annonces du gouvernement tout à l'heure.
Ouais. Et alors Mélanie, en plus, il y a un site où vous pouvez trouver plus de 800 formes d'emporte-pièces différents pour faire ces petits biscuits.
Deux ou trois suffiront.
Ça va l'occuper le week-end prochain. Et donc vous formez un petit bonhomme, vous refaites lever 30 minutes et puis vous décorez avec les pépites de chocolat, vous avez vu, il y en a qui ont des petites pépites de chocolat qui font les yeux, les petits boutons. Ouais. Vous mettez au four et puis vous dégustez.
C'est pas très difficile, hein ?
Pas du tout.
J'allais vous poser la question, c'est dur à faire ça,
non,
Sophie ?
Non, Julia, j'aimerais bien que vous essayiez, que vous nous en parliez prochainement.
Bah écoutez,
elle vous demande parce qu'elle a pas écouté quand même. Hein.
C'est dur à faire. Mais la recette est écrite et elle peut la retrouver sur le site.
Vous savez que souvent je prends en photo vos recettes et je me dis qu'il faut que j'essaie à la maison. Mais j'ai pas encore.
Vous avez commencé ? Non, pas encore.
Non, j'ai pas encore commencé.
Je dois la croire ou pas ?
Sinon, elle les prend en photo. Je l'ai vu faire. De là à dire qu'elle va jusqu'au bout de la recette, c'est une autre histoire.
Par contre, je mange bien, c'était délicieux, merci.
Elle vous fait honneur
merci
à chaque
à vous,
fois, quand même.
C'est vrai, ouais, je suis flattée.
C'est déjà ça. Merci beaucoup, Sophie Menu, pour cette délicieuse
merci
chronique et cette dégustation parfaite qui nous a fait replonger en enfance, surtout Sophie Brachmann, j'ai l'impression.
Vous voulez pas avaler, Mélanie ?
Bon, la morale, c'est surtout qu'il n'a pas d'âge pour se faire plaisir avec ce genre de douceur. On revient dans quelques minutes avec d'autres tendances. Enfin, surtout déjà les potins tendances du côté de la mode. Le tout décrypté par la talentueuse et piquante Sophie Brachmann. Et puis Benjamin Lévesque va nous donner ses conseils beauté du jour. Je crois que ce midi, il va nous proposer d'opter pour le lin à toutes les sauces, enfin surtout dans nos crèmes de beauté. Toutes ces bonnes recettes et ces bons plans, vous vous posez la question ? Eh bien non, hein, c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec notre trio de chroniqueurs.
C'est les biscuits.
Ça. On a bien démarré cette séquence avec les conseils culinaires de Sophie Menu et à présent c'est une autre Sophie qui va passer derrière le micro.
Une chanteuse je crois.
Oui, une grande chanteuse, de chant hollandais. Sophie Brachmann, vous êtes notre experte mode et c'est à vous, vous êtes allée récemment au cinéma je crois.
Alors c'est surtout que j'avais envie de vous parler de potins, je trouve que lundi c'est un bon jour pour parler des potins, on a reposé son closer, son voici, on est contente. Et je voulais vous parler bien évidemment du film The House of Gucci que vous avez vu, hein, Julia d'ailleurs, dimanche dernier, avec son héroïne Lady Gucci, comme se faisait appeler Patricia Reggiani, la femme d'Aldo, dont elle a quand même commandité le meurtre, hein, donc incarnée par Lady Gaga. Donc on a déjà une ambiance très sulfureuse au démarrage. Alors la famille s'est insurgée contre le film, menaçant même de porter plainte. Pourquoi ? Parce que selon ses dires, le film montrerait Aldo Gucci et ses proches comme des hooligans ignorants, je cite, et insensibles au monde qui les entoure. Difficile en effet d'appartenir à un clan aussi luxueux où le fast aussi faisait partie des maîtres mots et d'être une grosse brute en vrai. Mais les hommes de mode sont-ils nécessairement aussi raffinés voire aussi bling que leurs vêtements ? Vaste débat, l'histoire jugera.
Bon, et dans la vraie vie alors ?
Alors, dans la vraie vie, eh bien, les ventes de Gucci Vintage sont envolées dès le premier jour de la sortie du film.
Ça m'étonne
25%
pas.
De demandes en plus, hein, donc pour la marque enregistrée par le site Vestiaire Collective, avec notamment un engouement fort pour les sacs, la, fa-
fameuse casquette monogramme qu'on connaît tous. Bon, pas de quoi réjouir la famille, évidemment, hein, puisque la marque ne lui appartient plus depuis longtemps et qu'elle est la propriété du groupe Kering. Famille qui regrette aussi le traitement de la meurtrière. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Julia, mais Patricia qui est présentée un peu comme une victime.
Bah oui, c'est-à-dire que Lady Gaga joue super bien et à un moment donné, quand elle se fait planter par son gars, on est en empathie avec elle. Mais de là à adouber le meurtre.
Non, alors c'est vrai que cette fameuse Lady Gucci, parce qu'elle s'est fait appeler Lady Gucci jusqu'au bout, hein, c'est quand même bien un personnage digne d'une tragédie gréco-romaine, passionnée arriviste outrancière, elle voulait ramasser un maximum d'oseille. Alors sachez quand même que Lady Gucci, elle a réussi à soudoyer en prison hein, ses co-détenus pour ne jamais avoir à passer le balai dans sa cellule, refusant même de sortir en conditionnel sous prétexte qu'il n'est pas question qu'elle travaille à l'extérieur, hein, elle qui n'a jamais travaillé. Une Lady qui clamait son innocence jusqu'au bout et qui a quand même un avoué à un journaliste ne pas avoir tué elle-même son mari, car sa vue déclinant, elle aurait bien eu peur de le louper. Voilà, donc ça, c'est quand même un sacré personnage de film. Donc on peut l'apprécier ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas, je trouve que pour un film, bon, elle s'y prête bien. Hein,
ça, c'est sûr. Il y a aussi une triste disparition dont vous voulez nous parler,
oui,
Sophie.
Oui, tout à fait. Alors ça ne vous a certainement pas échappé. Triste nouvelle, la disparition prématurée de l'immense directeur artistique Virgil Abloh à 41 ans seulement. Il était le directeur artistique de la Maison Vuitton, fondateur de la marque Off-White. Alors même si vous n'êtes pas calé en mode, hein, vous avez les réseaux sociaux, vous en avez forcément entendu parler, parce que depuis quelques jours, voire une semaine presque, sur Insta, les RIP Virgil fleurissent. Oui, dans la mode, c'est un peu comme ça. On est ami avec tout le monde ou ami avec personne, mais enfin du coup, ça revient au même. Alors, puisse ta gentillesse illuminer le monde des anges jusqu'à ce qu'on se retrouve, écrit Alessandro Michel, directeur artistique de Gucci. On est toujours dans le thème de l'au-delà hein, chez Gucci, c'est très beau. Le styliste et le réalisateur Tom Ford a rappelé l'importance du designer avec son révolutionnaire label Off-White, qui a fait tomber les barrières en devenant le premier directeur artistique black pour Louis Vuitton. Preuve que dans la mode, il était quand même temps aussi que les choses changent, hein, que c'était résolument un entre-soi. Enfin, la très belle mannequin Gigi Hadid qui nous dit « Il donnait à chacun la sensation d'être vu et spécial. Je le vois maintenant comme notre Mickey Mouse, pour toujours avec nous, pour toujours adoré, pour toujours magique. »
Vous faites très bien Gigi Hadid.
Vous avez vu, j'avais assez vrai, bien, je suis contente. Bon, je suis pas sûre que dans l'au-delà, la référence à Mickey plaise, hein, parce qu'il a beau être sourire Mickey, il est quand même un peu réac si on s'en réfère à son célèbre patriarche Walt Disney, conservateur, sexiste et freak control. Comme quoi, on peut créer la plus grosse usine à rêve et être aussi peu détendu qu'un politique en campagne.
Une autre news, elle concerne Christina Cordula.
Oh là là, alors là, je me tourne tout naturellement vers Benjamin qui va vous adorez Christina Cordula. Eh bien, non contente de nous donner tous ses conseils stylistiques, Christina a créé sa propre marque de maquillage. Et comment s'appelle-t-elle la marque ?
Magnifique,
évidemment. Une ligne de basique pour le teint, parce que la mise en beauté, c'est un sujet très important, nous dit-elle dans un relooking. C'est même la cerise sur le gâteau. Comme les basiques de la garde-robe, les basiques de la trousse de maquillage nous permettent de nous sublimer au quotidien, dit-elle dans une interview accordée à Fashion Network. Et dans ces basiques, Benjamin a inclus l'embellisseur de teint, c'est la base, le correcteur au taquet et le duo bronzer highlighter en veut de la lumière.
C'est le nom des produits, ça.
C'est le nom des produits, c'est génial. Hein. Donc voilà, ben Benjamin avec ça, avec un jogging peau de pêche et un top nude, vous serez 100% dans le thème belle peau et transparence pour la rentrée. Et enfin,
au rayon haute couture.
Quoi bah de oui, demain, je me suis dit, je voulais vous en parler, le défilé des métiers d'art de Chanel.
Ça
alors
va être magnifique,
ça va être somptueux dans le siège qui réunit toutes ces maisons, baptisé le siège le 19M. Alors pourquoi 19M ? M comme main, mode, métier, maison, manufacture, puisque l'idée de ce défilé, c'est de replacer l'artisanat au cœur des préoccupations et de découvrir des savoir-faire incroyables. Je ne sais pas si vous connaissez le métier de fleuriste artificiel, gantier, plisseur, plumassier.
Génial, ah, ça fait rêver.
Très très beau. Et 19, en hommage à l'arrondissement où se trouve cet exceptionnel bâtiment, porte d'Aubervilliers, a priori plutôt détonnant, avec l'image même de Chanel. Mais c'est bien simple, une robe haute couture peut aller jusqu'à 600 heures de travail, avoisiner plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça pour une poignée d'acheteuses dans le monde. Mais bon, quand on aime les filles, on ne compte pas.
Oh, très bien. Beau. Merci beaucoup Sophie Braffman pour cette chronique presque croustillante hein, par certains points évidemment.
Très croustillante.
Bah oui, c'était croustillant. On a parlé potins, on adore ça. À présent, on va aller dans un autre secteur qui aime peut-être les potins aussi. On va voir ça avec Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, vous avez mis les mains dans la terre pour pouvoir nous parler du lin.
Et oui, tenez les filles, je vous ai même rapporté un petit bouquet de lin. Je suis désolée, c'est pas
mignon.
Les roses.
C'est très mignon. Ça se mange
mais non, ça ne se mange pas.
Okay. C'est du lin séché.
Alors, ce sont les Égyptiens qui les ont utilisés en premier pour faire des cordes en lin.
ou aussi en faisant des fines bandelettes, vous savez, pour enlacer les corps des momies des pharaons. Et à votre avis, est-ce que vous savez quelle quantité de lin est-ce qu'il fallait pour momifier un adulte?
Oh, mais ça doit être énorme.
Énorme, ouais.
Des tonnes. 20 000. Une tonne.
Bon, tonne. Alors, en tonne, je ne sais pas. En fait, on avait besoin d'un kilomètre de lin pour momifier un adulte.
20 000, je ne sais pas quoi. je vais annoncer un chiffre hein, comme ça. Je suis sûr, on ne sait jamais.
Et par la suite, on va faire avec le lin donc des textiles, des vêtements. Et au 19e siècle, eh bien, le coton arrive. Conséquence, on va délaisser petit à petit le lin. Mais il revient en force depuis 10-15 ans, notamment dans le monde des cosmétiques, comme ces carrés démaquillants lavables. Donc, ils sont faits en lin et c'est la marque Linae qui les fabrique. Et en plus, c'est écolo, hein, puisqu'on estime qu'avec un carré lavable comme ça, eh bien, on remplace entre 300 et 500 cotons jetables.
Ça, c'est génial. Mais on peut mettre aussi du lin sur son visage, Benjamin?
Oui, très bonne idée.
Prenez le bouquet et vous frottez sur la joue.
Vous allez plutôt utiliser ces crèmes. Très bonne idée sur le visage, le corps. En fait, les marques utilisent de plus en plus la graine de lin pour en faire une huile que l'on va pouvoir s'appliquer sur le corps. On a également des crèmes visage enrichies en huile de lin. Et l'hiver, c'est l'idéal, puisque avec le froid, vous savez, on a tendance à avoir une peau un petit peu plus sèche. Mm-hmm. Et l'huile de lin a cette capacité incroyable d'empêcher la peau de dessécher, comme l'explique Kathleen Emery, qui est responsable des soins de la peau chez Mavala.
L'huile de lin contribue à retenir l'eau dans l'épiderme. Donc c'est ça qui va améliorer vraiment la capacité à retenir l'hydratation dans la peau et à apporter aussi des lipides qui vont être complètement nutritifs et protecteurs pour la peau. Donc c'est idéal pour les peaux sèches.
Et plus étonnant encore, l'huile de lin, on l'utilise aussi pour apaiser certains petits problèmes de peau que vous connaissez bien, Mélanie, comme l'acné. C'est ce que nous explique la dermatologue, le docteur Nina Ross.
L'huile de lin peut être appliquée sur des acnés modérés et plutôt des acnés inflammatoires, donc faites de boutons rouges. C'est intéressant parce que c'est un produit qui est assez fluide et qui est donc anti-inflammatoire. Attention toutefois, c'est un corps gras qui ne va pas convenir aux acnés rétentionnels, faites de petits boutons blancs, de comédons, de points noirs. Donc quand on a la peau qui est déjà très grasse, il ne faut peut-être pas utiliser l'huile de lin ou aucune autre huile d'ailleurs.
Et Benjamin, pour les cheveux très secs comme les vôtres, est-ce que ça peut être utile éventuellement, l'huile de lin?
J'accepte. Alors, bah, c'est exactement comme pour la peau, hein, donc excellent pour les cheveux secs. On va pouvoir en appliquer sur les pointes. Tenez, vous avez une huile de lin à appliquer donc sur les pointes si vous avez cette sensation de paille ou de cheveux cassés. Et puis, l'huile de lin, on peut aussi la retrouver dans des shampoings et ça va permettre en fait de redonner du volume à votre tignasse, comme le dit Stéphanie Gastalin, qui est la fondatrice de la marque Linae.
La graine de lin va être vraiment très intéressante au niveau capillaire parce qu'on va pouvoir utiliser les deux phases, l'huile et le gel. Ben, ça va donner un effet tuteur, ça va gainer le cheveu, ça va donner un gonflant au niveau des cheveux. Donc ça va vraiment être très intéressant pour cet effet tuteur, pour vraiment donner vraiment du volume aux cheveux qui peuvent être un peu plats. Donc c'est pour ça qu'on va les retrouver à la fois dans des shampoings ou des soins pour les cheveux, vraiment focus volume.
Et on peut aussi utiliser cette huile. Moi, je le fais pour gainer les cheveux.
Ça
en fait,
pas vous trop,
faites.
Hein, c'est pas non, très
mais,
efficace.
Non, mais là, ils sont attachés. Mais quand je les détache et que je veux me faire des boucles, eh ben, j'en mets et je gaine.
Il faut pas les mettre en racine. Hein, c'est beaucoup trop gras.
Non, c'est
Benjamin,
beaucoup trop gras.
Évidemment. Ouais. Mais est-ce qu'on peut la manger, cette huile de lin? J'y reviens.
Oui, exactement. Alors pas celle-ci parce qu'elle est pas comestible, mais l'huile de lin, elle est excellente à déguster pour accompagner, par exemple, une salade. Hein. Toujours la manger à froid, hein, ne jamais la cuire.
Ah oui.
Sinon, elle va rancir, elle va tourner, c'est pas bon. Et ensuite, il faut savoir que cette huile, c'est la championne en oméga 3, donc ça va protéger votre système cardiovasculaire, ça aide aussi au bon fonctionnement
bon
des neurones.
C'est bon pour fabriquer des ménuleux peut-être, Sophie? Non, je ne sais pas. Que
vous l'utilisez, vous, l'huile de lin?
Oui, je l'utilise en salade, c'est très très bon.
Voilà, exactement. Et puis l'huile de lin est aussi gorgée de vitamine E et d'antioxydants comme les fameux flavonoïdes, donc ça va retarder l'apparition des rides.
Ah, pas mal.
Et ça un peu d'agriculture pour finir.
Bah oui, ça pousse où le lin?
Alors le lin, donc, ça pousse principalement en France, on est le premier producteur. On en fait pousser dans des régions tempérées et humides, donc le nord de la France, donc la Picardie par exemple, la Normandie, la capitale du lin est à Doudeville en Seine-Maritime, et puis on va aussi en retrouver dans le nord de la Bretagne.
D'accord,
bon, il nous reste
30 utilisés en textile.
Secondes là.
Ben voilà,
ah oui,
j'allais me tourner vers vous parce que je me dis, il reste 30 secondes.
Et, ben,
et moi je trouve qu'on n'a pas bien entendu votre chanson de Hollande.
Vous voulez que je vous rechante la chanson?
Ça pourrait faire une belle chute.
Oui, alors voilà, je vais chanter la chanson de Saint-Nicolas. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in
Goodman lâche, tant que Sinterklaas. Ah, si on m'avait dit qu'un jour on ferait chanter une chanson néerlandaise à la radio.
Et bah, merci Saint-Nicolas quand même.
Merci beaucoup Sophie Braffman, vous êtes une super chanteuse. Et merci Benjamin Lévesque, vous êtes
super. Je suis pas un si bon chanteur, moi.
Excusez-moi. Merci pour ces belles découvertes beauté. Avec vous, on est certaine de ne jamais rater les dernières tendances du monde de l'esthétique. Heureusement que vous êtes là pour assurer cette veille, je vais dire vieille beauté, veille beauté pour nous, même si on est des vieilles beautés. Merci à tous les trois, on vous retrouve très bientôt. Et donc, bien fait pour vous, touche à sa fin. On sera évidemment de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier sujet du jour?
Alors Julia, vous savez, dans Bien fait pour vous, on parle souvent de partage, de prendre soin des autres, mais cette fois, on va se la jouer perso, on va faire l'inverse, on va voir que se faire passer en premier, être égoïste, c'est même si bien. C'est très mal vu, ça peut être parfois très bénéfique pour notre bien-être. On vous expliquera comment vous y prendre.
Et d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le compte de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.